Interview.
2 jours.
Bonjour, je me trouve en compagnie d'Alain Gigandet qui vendredi dernier, donc vendredi 24, est venu nous donner une conférence sur Épicure, plaisir et sagesse. Le lendemain, cette conférence a été suivie d'une rencontre impromptue avec un certain nombre de personnes qui avaient suivi la conférence la veille. Et cette discussion impromptue, à bâton rompu, donc, puisqu'elle est impromptue, a permis de développer d'autres voies et d'avoir une discussion beaucoup plus libre. Donc, afin de rentrer dans le sujet qui est de vous présenter Alain, je vais lui poser une première question qui est, Alain, venir dans un petit village comme Lucandiwa, venir dans une région que je crois que tu ne connaissais pas, de voir un public que je dirais aussi nombreux, puisqu'il y avait, je crois, près de 50 personnes. Et voilà, je vous laisse avoir déjà tes premières impressions sur cette expérience, parce que tu en as peut-être mené d'autres, mais au moins parler de celle-là, puisqu'elle nous concerne directement.
Oui, Christian, eh bien, écoute, j'avais été très sensible à cette invitation, précisément, parce que je savais que j'allais rencontrer un public de gens qui ne sont pas des spécialistes, encore moins des professionnels, universitaires ou autres, mais des gens qui ont une vie, si je voulais faire un peu d'ironie, qui ont une vie normale, et qui néanmoins essayent de, puisqu'ils sont là, puisqu'ils font l'effort de venir, de penser leur vie, de penser leur existence. Et déjà, la perspective de cette simple rencontre correspondait très bien avec une conception que j'ai de la philosophie, si tu veux. J'ai enseigné à la philosophie, d'abord en lycée, d'abord à l'université. Bon, ce métier m'a énormément plu et je le referais encore si j'avais à le faire, comme dit le poète. Mais je pense que la philosophie, elle ne doit pas se cantonner à un milieu scolaire, à une transmission universitaire. Encore moins, la vocation de la philosophie serait de former de futurs professeurs de philosophie. Je pense qu'elle a vocation à aller sur la place publique et à instaurer un échange où elle trouve sa véritable assiette et éventuellement un peu d'efficace. Voilà. Quant à la région, ben, c'est vrai, je ne la connaissais pas, j'ai découvert sa beauté, mais j'étais préparé parce que je suis par contre plus familier avec l'autre côté. Je connais assez bien le haut de la Durance, de la vallée de la Durance, là le sud de Briançon, et je retrouve quand même des points communs. Mais c'est vrai que c'est une région très spécifique, très magnifique, et elle est spécifique aussi par les gens qui y habitent. J'ai découvert des gens extrêmement attentifs aux problèmes justement civiques, citoyens, des gens très généreux aussi qui s'investissent dans un nombre d'activités qui m'a même, je dois dire, surpris.
Ben, c'est un beau compliment pour la région et pour ceux qui l'habitent. La philosophie, il y a deux questions qui viennent, mais il y a une première, je dirais. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens qui sont en train d'écouter cette interview sans avoir auparavant écouté la conférence que tu donnes et qui pourront écouter ensuite? Et ces gens qui se disent, bah, la philosophie, oui, on en parle beaucoup, mais moi, j'ai pas suivi d'études, je suis pas apte à ce genre de choses. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens justement qui se sentent dans la difficulté d'appréhender cette discipline? Les premiers mots, et pour joindre ce que tu disais, est-ce que moi, j'ai tendance à penser, mais je te demanderai ta confirmation, la philosophie, c'est du quotidien. Ça peut occuper tous les instants de notre vie et nous faire penser à des choses que l'on pratique. Est-ce que tu partages cette idée et comment tu pourrais développer cette idée de ton point de vue?
Oui, alors je partage bien sûr cette idée. Bon, elle ne rend pas compte, évidemment, de l'ensemble du projet philosophique. Elle en éclaire une dimension qui est évidemment essentielle, hein. Je pense que ça s'entendait dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais je dirais que, bon, je ne vais pas refaire mon cours sur qu'est-ce que la philosophie qu'on faisait traditionnellement aux élèves de terminale quand j'enseignais au lycée. Mais bon, la philosophie, bon, c'est un amour ou une amitié pour la sagesse. La sagesse, c'est un gros mot qui fait peur. Mais au fond, je pense qu'en repartant des fondamentaux, des origines, ce qui est un peu ma vocation, puisque ma spécialité universitaire, quand même, portait sur des philosophes grecs, donc un peu qui représentent, disons, les premières, les débuts de la philosophie, les premières phases historiques de la philosophie. Bon, je pense qu'on peut repartir de l'idée que pour parvenir à cette hypothétique sagesse, bien entendu que le philosophe ne se définit pas comme sage, il aspire à la sagesse, il aime la sagesse, il la désire parce qu'il ne l'a pas. La voie, c'est la connaissance de soi. On en revient au fond toujours là, c'est une connaissance de soi. Bon, alors, on découvre petit à petit, quand on essaye de s'engager dans ce chemin, que la connaissance de soi, ça devrait être une connaissance, c'est-à-dire que ça requiert un certain nombre d'outils, comme toute tâche, et ces outils, ils peuvent pas être simplement intuitifs. Hein, bien sûr, on a une certaine connaissance intuitive de soi, mais justement, si on veut aller au-delà ou en deçà, si on veut comprendre, par exemple, la façon dont le rapport qu'on entretient en permanence aux autres, c'est une sorte de construction de soi permanente et parfois aveugle, eh bien, il faut acquérir un certain nombre d'outils conceptuels, il faut une certaine démarche, en particulier cette démarche se construit beaucoup dans le dialogue. Bon, et le dialogue, bon, bien sûr, on pense tout de suite à un dialogue vivant, comme celui que j'ai pu avoir justement avec les participants des deux séances à Luc. Mais le dialogue aussi, c'est bien sûr un dialogue plus muet. Et c'est le dialogue avec les gens qui ont fait de la philosophie avant nous et qui ont déposé un certain nombre d'enseignements dans leurs livres. Et c'est donc le dialogue, c'est aussi retrouver, refaire vivre ces personnes à travers leurs écrits, à travers leurs livres, apprendre à les lire. Et petit à petit, d'ailleurs, quand on essaye, on se rend compte qu'un certain nombre de ces gens avec qui on trouve des affinités, moi par exemple, ça peut être des gens comme Épicure, comme Spinoza et d'autres, ils deviennent vivants. On se surprend à leur parler et à leur demander quelque chose. Et ils sont souvent même plus vivants que certains vivants que l'on côtoie. Voilà. Donc je veux dire, voilà, c'est une façon de rentrer dans un monde qui est notre monde, mais peut-être éclairé latéralement, d'une façon différente.
Certaines personnes pourraient nous dire, ou pourraient te dire, me dire... Oui, mais en fin de compte, dans le monde dans lequel on vit, on a tellement de moyens de communication, c'est un monde tellement différent de celui qui peut être évoqué. Quelles sont, je dirais, d'une certaine manière, pour toi, les permanences des questions que pouvaient se poser les Grecs, tels que tu les as étudiés, et les préoccupations que l'on peut avoir aujourd'hui, en fin de compte, dans un monde terriblement... pour certains inquiétants, qui posent énormément de questions, avec des remises en cause assez fondamentales, de mode de vie, de mode aussi de pensée, de mode de transfert d'informations. Comment tu pourrais décrire une sorte de transversalité, quelque chose qui fait que ces paroles qui datent des fois de plus de 2000 ans, 2400 ans si je ne me trompe pas pour Épicure, sont effectivement des données, je dirais, permanentes à l'homme?
Bon, je vais dire des choses qui n'ont rien de très original. Je crois que ce à quoi les Grecs nous éveillent quand on fait revivre leur texte, c'est que il y a un certain nombre de questions, de problèmes. Hein. Un problème, ça n'est jamais qu'une question un peu construite, un peu élaborée. Hein. Il y a un certain nombre de ces questions, de ces problèmes qui persistent, qui se reposent à nous. Alors les conditions, évidemment, change énormément. Le monde dans lequel nous vivons est incroyablement étranger en un certain sens au monde dans lequel vivaient les anciens Grecs, mais au fond, la question de savoir comment affronter ce monde, comment s'en arranger ou ne pas s'en arranger, que faire pour vivre, je dirais, pour vivre harmonieusement avec soi-même et avec les autres, je pense que ces questions persistent. Insiste, et d'une certaine façon, moins on se les pose, plus ça va mal. Donc la philosophie, elle ne va pas nous donner de réponse dans du papier d'emballage, il suffit d'ouvrir le paquet, certainement pas. Mais par contre, elle va nous instruire, nous apprendre à élaborer les questions à la hauteur des difficultés que nous pose l'époque présente, et elle va nous apprendre, hein, c'est des manières de penser, même un certain nombre de contenus, certains concepts, etc. Elle va peut-être, si on s'engage dans ce chemin, nous apprendre à, en retour, questionner l'époque, nous questionner, mais aussi questionner l'époque, et peut-être, agir là où ça ne va pas, là où ça fait mal. Par exemple, soyons concrets, on a beaucoup évoqué finalement là, pendant ces deux rencontres, la question du vivre ensemble, du lien commun. Il me semble que c'est quand même du bien commun, oui. Il me semble que c'est quand même des choses qui font mal aujourd'hui, qui nous mettent en question et qui nous questionnent. Et parfois... De la façon la plus concrète et même la plus douloureuse. Voilà. Il me semble que là, on a, par exemple, en s'adressant aux épicuriens, en essayant de comprendre leur cheminement, il me semble qu'on a là une voie très, 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 très riche. Par exemple, cette idée, pour les épicuriens, que quand une communauté, une collectivité politique est dans le malaise, dans la crise, bien, il faut reprendre les choses à la base, à la racine, et se demander par exemple, en effet, qu'est-ce que ces lois qui nous gouvernent, à quoi servent-elles, quelle est leur fin, quel profit en retirons-nous, comment justement réexaminer ça, et surtout chez les épicuriens, ce que je trouve qu'il y a une interrogation qui est au fond très contemporaine pour nous, c'est comment articuler un lien communautaire, collectif, d'affinité, ce qu'on pourrait par exemple appeler amitié, dans un sens très large, avec un lien civique, un lien politique, et comment, au fond, peut-être chercher, explorer des voies du vivre ensemble dans l'articulation de ces deux types de socialisation.
Oui, ça fait écho à ce qu'on évoquait effectivement au cours de ta conférence, et c'est que la philosophie telle que tu la présentais nous donnait à réfléchir à un certain nombre de personnes présentes et à travers les questions qui se posaient, c'était en fin de compte comment redessiner une forme qui était en fin de compte la base de la cité grecque à Athènes, c'est la démocratie. Comment l'amitié chez Épicure, par exemple, pouvait amener à redéfinir effectivement un sens du commun tel que tu viens de l'exprimer. Une question que je me suis souvent posée, que j'avais jamais posée encore. Quand on voit l'importance de la philosophie, alors elle est occidentale, mais on sait qu'elle est aussi orientale, enfin... qu'est-ce qui fait qu'un philosophe choisit, je ne dirais pas un philosophe, une philosophie, mais on voit que c'est elle continue aujourd'hui, de jeunes philosophes, de gens qui posent encore ou qui tentent de poser des concepts. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se pose sur, par exemple, comme tu le fais toi, l'Antiquité grecque, est-ce qu'il y a une sorte de ramification comme ça qui te ramène dans le présent à travers des auteurs contemporains?
Ah, cette question, elle est à plusieurs étages, hein, comme une fusée. Et puis, cette question, elle nous rattrape régulièrement dans la vie. Quand on a choisi de consacrer sa vie, justement, à ce type d'activité philosophique, avec aussi des activités pédagogiques qui l'accompagnent, etc. Bon, je pense que donc, il y a une première chose, c'est qu'est-ce qui te fait choisir la philosophie ? plutôt que toute autre chose. Alors là, bon, évidemment, vous l'imaginez bien, hein, on l'imagine bien, il y a des tas de déterminants personnels. Et je voudrais dire une première chose qui m'est apparue, au fond, en prenant de l'âge, en réfléchissant, en se retournant sur le chemin. Je crois que on choisit la philosophie pour un certain nombre de raisons. En ce qui me concerne, au fond, je pense aujourd'hui que c'était pas toujours de très bonnes raisons. Bon, par exemple, des raisons d'auto-affirmation, comment sortir de l'adolescence en s'opposant à la famille, aux autres. Et alors là, on acquiert justement un lexique, une petite panoplie conceptuelle qui permet bon, de s'affirmer, de se poser, de faire le malin parfois, etc. Bon, ce n'est pas des très bonnes raisons, mais évidemment, parallèlement, on acquiert aussi autre chose, hein, comme souvent dans la vie, quand on acquiert des compétences. Et puis, je pense que justement, enfin, si je me fie à mon cas personnel, mais j'en ai parlé avec des amis et je retrouve un peu ça, je pense que régulièrement, au cours de l'existence, on refonde ou se refonde les raisons pour lesquelles on fait de la philosophie. C'est-à-dire que on va, en fonction des circonstances de la vie, être amené à continuer à faire de la philosophie, mais c'est une fidélité qui va s'appuyer, se baser sur de toute autre raison. Et peut-être que, au fond, en étant très très optimiste, il y a au cours de la vie, comme ça, petit à petit, une plus grande lucidité qui s'élabore, s'ouvre sur les, disons, les bonnes raisons de faire de la philosophie. Bon, alors là, je suis parti peut-être dans un aspect un peu particulier de ta question. J'essaye de me souvenir des autres dimensions. Oui, pourquoi choisit-on tel type de philosophie ? Ben, j'ai envie de te dire... Peut-être pour les raisons que je viens de dénoncer. C'est-à-dire que peut-être qu'à chaque étape de la vie, il y a une réorientation aussi du regard que l'on porte, de l'inventaire que l'on fait sur cette histoire de la philosophie et sur ces moments, hein, exemplaires, ces grands philosophes, ces pensées, ou des pensées peut-être qui ont moins marqué l'histoire, qui sont plus marginales, mais tout d'un coup avec lesquelles on trouve une affinité. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que au moment où l'on se trouve de son existence, eh bien, tout d'un coup, on trouve en effet une façon de reformuler les questions, peut-être quelques ouvertures, quelques portes qui s'en trouvent, qui te conviennent parfaitement. Et au fond, tu vois, la philosophie, c'est aussi un peu une boîte à outils, un peu ce que Proust disait de son œuvre, donc littéraire, La recherche du temps perdu. Le lecteur se sent comme des lunettes. Le lecteur les essaiera, il les mettra sur son nez, si elles lui permettent de voir un peu plus distinctement certains aspects du monde, il continuera sa lecture. Et puis, si ça ne marche pas, il posera les lunettes et il en essaiera d'autres.
C'est sur ces excellentes paroles que nous allons nous quitter, Alain. Mais je pense que c'est ta première visite et je ne pense pas que ce soit la dernière. En tous les cas, c'est ce que je souhaite et ce que je pense que les personnes qui étaient présentes lors de ta conférence, partageons avec moi. Là, on était sous le soleil du Diwa. Je crois que tu as regagné peut-être la pluie parisienne, mais en tous les cas, nous sommes ravis de t'avoir eu parmi nous et nous aurons certainement l'occasion, comme je viens de le dire, de nous revoir. Merci à tous et n'hésitez pas donc à écouter la conférence d'Alain Gigandet. Je crois que cette découverte que vous ferez de sa conférence corroborera ce que vous venez d'entendre. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Thank you.
bonheur. Mon cœur la chante, et je sais que ton cœur la chante aussi. Souviens-toi, mon amour, de ce jour merveilleux de septembre, pour que naisse un roman, simplement quelques mots ont suffi. La chanson du bonheur, lointaine et tendre, c'est l'écho dans nos cœurs qui nous redit que la vie a vraiment commencé par ce jour de septembre, où le vent tendrement fredonnait la chanson du bonheur.